Au cours de l'automne de l'année 1800, Joseph Poiré et Alexis Lamarre étaient de très bons amis, même qu'ils habitaient ensemble la même maison dans le district de Québec. Et tout bonnement, au cours de cet automne-là, Lamarre a confié à Poiré une certaine quantité de morue destinée à la vente. Donc, il lui confiait cette morue-là qu'ils avaient pêchée probablement ensemble pour aller la vendre et récolter les profits ensuite. Par contre, après avoir vendu le poisson, Poiré en a profité un petit peu. Il a joué dans le dos de son ami et il est allé dépenser en achetant du tabac. Alors, probablement que le tabac à cette époque-là était considéré comme de l'argent gaspillé, un peu comme de la drogue finalement, et c'est ce qui a déclenché une sévère dispute entre les deux amis. La dispute a été si sévère que, ils en sont venus au coup finalement. Les deux hommes se sont battus assez violemment. On parle du 12 décembre 1800 qu'il y aurait eu une altercation assez violente. Et en plus de ça, en plus des coups, Poiré aurait lancé une menace. Et j'ouvre ici les guillemets. Il a dit « Mon sacré gueux, tu ne mourras jamais d'autre main que de la mienne ». Ça veut dire que, en bon québécois d'aujourd'hui, il a dit si tu meurs, ça va être par moi. C'est moi qui va te tuer finalement. Donc voilà, c'est plus le genre de menace qu'on entendrait aujourd'hui dans les quartiers malfamés de nos villes. Malgré tout ça, on ne sait pas ce qui liait les deux hommes autre que leur amitié, parce que ils continuent quand même de se côtoyer. Durant un certain temps, durant la période des fêtes à tout le moins. Et on en arrive au 14 janvier 1801. Il y a un autre affrontement entre les deux à ce moment-là. Lamarre au point où Lamarre s'est servi d'un bâton pour frapper Poiré. Et là, Poiré a visiblement perdu la bagarre, si on veut, entre guillemets. Et c'est à partir de là qu'on pense là, qu'il s'est promis une vengeance parce que son comportement change du tout au tout. On dit que pour les tueurs, il est important de remarquer le comportement avant et aussi après le crime. Donc là, on est avant le crime et son comportement change radicalement. Il va devenir super gentil avec son ami Lamarre. Et tout ça, il va être serviable. En tout cas, c'est comme, probablement, on n'a pas tous les détails, mais on va voir à la fin de la balado qu'il y a quand même une source intéressante. Il y a un petit livret qui a été produit à l'époque des faits, donc après le procès, pour expliquer en détail ce qui s'était passé. Et probablement que Lamarre, lui, a vu ça comme finalement, mon ami a compris et on va redevenir des amis, même si ça prend encore un petit peu de temps avant que ça s'estompe. Mais il a probablement pris ça comme le fait que Poiré, il avait finalement avalé sa pilule puis qu'il avait compris. Mais il faut quand même rester objectif parce que cette affaire-là n'aura pas le dénouement auquel on va s'attendre. Et on en vient ensuite au 28 janvier 1801. Ils ont embarqué Poiré et Lamarre dans le même canot pour se rendre, c'est-à-dire ils revenaient à Québec. On ne sait pas où ils sont allés avant cela, mais ils revenaient à Québec ensemble. Donc, ils semblaient s'entendre encore assez bien tous les deux. Et le premier geste de Poiré a été de visiter le Quai de la Reine à Québec. Ils en profitent évidemment les deux amis pour vaquer probablement aux occupations qu'ils avaient à l'habitude quand ils étaient sur les places du marché et tout ça. Donc, on les voit à quelques reprises au cours de la matinée, à certains endroits, tout ça. Puis c'est plus ou moins important, mais lors du procès, on a décrit certains de leurs déplacements. Et c'est un peu avant midi, dans la rue Saint-Pierre, près d'un dénommé McCollum, que Poiré a été vu en train de bavarder avec le passager Baron au moment de dire à Lamarre « Hey Lamarre, viens ici, je veux te parler ». Lamarre s'est approché pour le suivre jusqu'à la maison d'un dénommé Mackenzie et près du quai de la Reine. Donc on est encore pas loin de où ils ont laissé leur canot. Puis la dernière fois qu'on les a vus ensemble, la mort et Poiré se tenaient au bord du quai, justement. Et c'est ce qui va jouer dans tout ce mystère-là du crime qui va suivre. Ou peut-être qu'il n'y a pas eu crime aussi, c'est la particularité de cette affaire non élucidée. C'est que c'est tout un, tout ou l'autre. Soit qu'il y a eu crime ou soit qu'il n'y en a pas eu. Mais il y a quand même eu un procès, donc on a soupçonné qu'il y avait eu un crime, c'est assez évident. Et donc, c'est au bord de l'eau qu'on les a vus pour la dernière fois ensemble. Le temps d'entrer chez lui pour prendre une brassée de bois, il y a un dénommé Nicolas Lemage qui, lui, a été averti par un ami du fait que la mort venait tout juste de tomber à l'eau. Donc, on les a vus ensemble, Poiré et la mort, près de l'eau. Et ensuite, on les a pas vus, on n'a pas vu l'action au moment où la mort est tombée à l'eau. Mais tout de suite, on l'a entendu, il y a quelqu'un qui a crié à l'aide, finalement, pour essayer de sortir la mort des eaux. Et là, on se retrouve avec un dénommé Michel Campagnard, un autre témoin. Il y a quand même eu plusieurs témoins dans cette affaire-là, qui lui aurait vu de ses yeux Poiré mettre ses mains sur les épaules de la mort pour carrément le pousser dans l'eau. Donc, je parlais tantôt qu'il y avait un manque entre les deux, mais lui, c'est le seul. Donc, il faut faire attention. Vous allez comprendre pourquoi à la toute fin. Parce que, finalement, le crime n'a jamais été élucidé. Donc, il est le seul à prétendre ça, que Poiré l'aurait poussé dans le fleuve, carrément. Et l'eau était tellement froide que, bon, évidemment, la mort a sombré rapidement. Il n'y a personne qui a pu venir à son secours, malheureusement. Bon, évidemment, sous le témoignage de Michel Campagnard, qui dit avoir vu Poiré avoir poussé son ami dans l'eau, bien, évidemment, les autorités de l'époque ont procédé à l'arrestation de Poiré. Et il a été arrêté dans le faubourg Saint-Jean, justement. Et il a admis, lui, de son côté, une fois arrêté, qu'il s'était retrouvé sur le quai avec la mort à un certain moment donné. Mais il a aussi affirmé que ce dernier s'était noyé lui-même, donc il était peut-être tombé du quai. Donc il a toujours refusé d'admettre l'avoir poussé, là, contrairement à ce que Michel Campagnard a prétendu. Le procès de Joseph Poiré s'est ouvert le 28 mars 1801 devant les juges Williams et Debonne. À cette époque-là, on n'en verra pas beaucoup, mais à cette époque-là, il y avait plus qu'un juge devant un procès pour meurtre. Et voilà, les jurés finalement ont délibéré après avoir entendu grosso modo les détails que je viens de vous livrer. Et les jurés ont délibéré durant 2 heures avant de rendre un verdict d'acquittement. Et oui, Joseph Poiré a été acquitté. Donc, la version de Michel Campagnard ne semble pas avoir été crue. On a pensé probablement que la preuve n'était pas assez solide. Et comme je le disais dans une balado précédente, tant qu'à moi, c'est une preuve aussi que la justice était pas si mal, parce qu'on préférait acquitter plutôt que de condamner quelqu'un sous un manque de preuves. Donc voilà, est-ce que la mort a été poussée ou s'il est tombé? Là, on est en hiver, évidemment, on ne sait jamais. Mais bon, deux pêcheurs qui sont habitués, des fois, normalement, ils sont habiles. Ils ne tombent pas comme ça. Mais bon, on peut prétendre ce qu'on veut. C'est très, très, très difficile de revenir et de questionner ce verdict-là parce que les transcriptions du procès n'existent pas. Par contre, il y a un livre, comme je le disais tout à l'heure, qui a été publié à l'époque des faits, c'est-à-dire en 1801 même. Donc, ils n'ont pas tardé. Ça a été publié à Québec. Ici, j'ai la première page. Je vais juste agrandir parce que c'est tellement écrit petit. Ça a été publié à Québec chez J. Nielsen, imprimeur libraire, rue La Montagne. Ça contient quand même les témoignages essentiels et tout ça. Et ça a été fait, j'ai l'impression que c'est les sténographes là, qui devaient vendre ou s'arranger pour, je ne sais pas, que leurs notes sténographiques soient profitables, parce que c'est quand même des transcriptions de témoignages. Mais par contre, ça fait 17 pages. On n'a pas les questions-réponses là, comme on est habitué de le voir dans les procès plus récents. Mais il y a quand même beaucoup de détails dans ces 17 pages-là. Et le livre, si vous voulez le lire, est disponible sur Internet. Si vous fouillez un peu, si vous êtes bon chercheur, vous allez le trouver. Alors, on ouvre le 19e siècle avec une affaire non résolue qui s'est terminée par un acquittement. C'est quand même un bon exemple parce que vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui se sont terminés comme ça, comme je le disais plus tôt dans une autre, au début, je pense, dans l'épisode 1 de Non élucidé, que, bon, il y a des cas classiques, là, comme un corps retrouvé sur le bord de la route, il ne se passe jamais rien, on n'a jamais aucun élément. C'est le mystère complet, tandis que là, ben, c'est soit... il y a quand même eu un procès, donc ça permet de faire ressortir beaucoup de détails. On est capable de reconstituer l'histoire et tout ça. Donc, le changement de comportement, c'est des témoins qui ont remarqué ça. On l'a dans... ça a été prouvé et tout ça. Donc, le changement de comportement, je disais, de Joseph Poiré, c'est quand même pas rien, parce que normalement, il y a toujours... en tout cas, souvent, il y a un changement de comportement chez le tueur avant de commettre son crime. Parce que lui, et ça veut dire qu'il le planifie, évidemment. Dans les crimes non planifiés, ben évidemment, il n'y a souvent pas nécessairement de changement de comportement. Mais il peut y en avoir quand même, comme par exemple une dépression. Et il ne prévoit pas commettre un crime, mais il est en dépression. Il a perdu sa job, il a perdu sa femme. Bon, il y a des... il y a des éléments déclencheurs assez importants comme ça qui font en sorte que le changement, le comportement change beaucoup. Donc, on se retrouve, voilà, avec un cas non élucidé. Est-ce que Joseph Poiré se préparait à tuer son ami et que finalement, ça a été un accident? C'est possible. Tout est possible dans ce cas-là. Donc, officiellement, il a été acquitté. Et c'est un verdict qu'on doit respecter. Donc, si c'est pas Joseph Poiré, c'est qui? Donc, on se tourne à ce moment-là. S'il y avait personne d'autre sur le quai à ce moment-là, ben la seule solution, c'est l'accident. Alors, voilà pour le premier cas du 19e siècle. Merci beaucoup. À bientôt.